Avec Frédéric Pommier aux commandes de cette revue de presse. Bonjour Frédéric.
Bonjour Eric. Bonjour Patricia.
Bonjour Frédéric.
Et bonjour à tous. Chaque année, quelques 150 mots font leur entrée dans le Petit Larousse illustré et quasiment autant dans le Petit Robert. Ce dernier intégrant aussi plusieurs dizaines de noms propres, des noms de personnalités. Cette semaine, l'Express a justement interrogé des personnalités, en l'occurrence des amoureux de la langue française, pour savoir ce que leur inspirent ces nouveaux entrants de nos chers dictionnaires. Quels sont ceux qu'ils aiment? Quels sont ceux qu'ils détestent? Pierre Perret, par exemple, aime beaucoup le mot « cododo ». Quand un nourrisson dort avec ses vieux, dit-il, subodorant que les bébés qui ont eu la chance de pratiquer le cododo doivent être, je cite, « aussi épanouis dans la vie qu'un chaton dans une corbeille de pelote de laine ». En revanche, il déteste le mot « frugalisme », ce mode de vie barbare qui permettrait de prendre sa retraite à 35 ans, les bras m'en tombent comme ceux de la Vénus de Milo. Sentiment contraire. Pour l'écrivain Philippe Delerme, lui, il aime beaucoup ce mot-là, frugalisme. Notamment parce que l'adjectif « frugal » lui rappelle ses bonheurs de lecture d'enfant. Les héros faisaient toujours un repas frugal, souvent en plein air, parfois un simple croûton de pain frotté d'ail. Et ils buvaient de l'eau à la source avant de repartir frais et dispo pour l'aventure. Pour lui, le frugalisme est comme un humanisme basé sur une rébellion, se soustraire à la société de consommation. Quant à Amélie Nothomb, elle trouve très sympathique le mot « remontada ». Pour une fois qu'un nouveau mot ne doit rien à l'anglais, dit-elle, et puis elle applaudit l'arrivée dans les dico de Virginie Despentes, Guillaume Gallienne, Dora Maar. Et comme on y trouve aussi Beyoncé, elle plaide, elle, pour l'entrée de Rihanna. Elle n'a rien contre Beyoncé, mais elle est fan de Rihanna. Alors peut-être qu'un jour, Rihanna fera son entrée dans nos dico, mais ce matin, à la lecture des journaux, on se dit que d'autres noms mériteraient également d'y figurer. Par exemple, celui de Rémi Beaujard-Runiec.
Et c'est dans le Progrès que l'on trouve son portrait.
Rémi Beaujard-Runiec était généraliste à Lyon. Il avait 65 ans et le 16 mai, il est mort du coronavirus. Après avoir passé 6 semaines en réanimation, dans le journal, ses enfants racontent son histoire. Et d'abord cette patiente, reçue début mars, avec des problèmes respiratoires atypiques. Au téléphone, Rémi Beaujard-Runiec lui avait conseillé de se rendre au SAMU, mais comme elle ne revenait ni de Chine ni d'Italie, le SAMU lui avait dit d'aller chez son médecin traitant. Lequel, à son tour, une quinzaine de jours plus tard, a développé des symptômes désormais connus. Grosse fièvre, écoulement nasal, maux de ventre et fatigue intense. Il s'est placé de lui-même en quarantaine, mais son état s'est aggravé et il a été hospitalisé le 3 avril. Le 7, il a été placé en coma artificiel et intubé. L'équipe qui s'en est occupée était alors confiante, mais la maladie a attaqué d'autres organes et mimé. Donc le 16, il est décédé d'un choc septique peu avant 15h. Avant que n'arrivent ses enfants. Ces derniers expliquent donc qui il était, sa passion pour les voitures, pour les balades dans la nature et les nombreux cadeaux qu'il recevait de ses patients. Et surtout, il rappelle cette phrase que disait leur père « On n'a pas été protégé ». Rémi Beaujard-Runiec a obtenu des masques uniquement 2 jours avant de tomber malade. Selon les estimations, il n'y a pas de chiffre officiel, plus de 50 médecins seraient décédés en France du Covid-19. Comme d'autres, la famille du docteur Beaujard-Runiec envisage aujourd'hui une action en justice pour dénoncer l'absence de moyens de protection donnés aux médecins. La procédure est lourde et son fils de 28 ans s'interroge. Je me demande si j'ai envie de vivre ça, mais d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas le faire pour papa ? Et pour faire son deuil, comme on dit.
Cette pandémie qui continue d'ailleurs d'occuper une large place dans les journaux de ce matin.
À côté du second tour des élections municipales. Second tour si particulier, nous explique Le Monde. Second tour inédit, commente Le Figaro. Un second tour sur lequel nous ne pouvons pas nous étendre ici ce samedi. Photo de Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, en une de l'Éco-Républicain. Selon lui, une deuxième vague est extrêmement probable à l'automne. Dans le Berry Républicain, on parle de la prime versée hier au personnel de l'hôpital de Bourges. La fameuse prime Covid, qui provoque la colère et l'incompréhension, car le montant n'est pas le même pour tous les agents. Et puis dans Elle, il est cette fois question du bruit. Après le silence du confinement, de nombreux citadins ne supportent plus le vacarme de la ville, un bruit qui leur est maintenant devenu intolérable, les empêchant de se concentrer et même de travailler.
Et toujours dans Elle, vous nous conseillez un reportage.
Un formidable reportage sur les mesures prises et mises en place pour aider les femmes battues lors du confinement à Marseille. Des dizaines d'entre elles ont pu trouver refuge, parfois avec leurs enfants, à la mythique Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM. Étrange pour elles de se retrouver là, dans un lieu qui fait fantasmer leur mari, qui fait rêver leur bourreau. Et l'on s'étonne à la lecture de cette phrase d'un des éducateurs qui les a accueillis. Tous les Marseillais savent que les violences conjugales augmentent chaque fois que leur équipe perd un match. Propos confirmé par le président du club, et il cite ici les mots d'un urgentiste. Il y a une nette corrélation entre les défaites de l'OM et les visites à l'hôpital la nuit suivante. Enfin, autre conseil de lecture, c'est dans Le Parisien, qui nous emmène visiter la Clouterie Rivière à Creil. La seule fabrique au monde à concevoir encore des clous sur mesure, avec de grosses machines du 19e siècle, c'est magnifique, allez lire. Toutes les machines sont baptisées d'un prénom, il y a Blanche-Neige, il y a Daniela, il y a Delphine, et le journal rend également hommage à celle qui a dirigé l'entreprise familiale de 1900 à 1935, elle s'appelait Marie Rivière, une patronne modèle qui n'a jamais connu une seule grève et qui savait chouchouter ses salariés. Elle également mériterait sans doute d'entrer dans les dictionnaires.
Avec Rihanna, le clou donc de cette revue de presse signée Frédéric Pommier. Merci Frédéric.